Allô?
Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Johanna, du coup?
Donc je suis Johanna Bramble, je suis designer, artiste designer textile, artisan designer textile, quelque chose comme ça. Et je suis installée à Dakar maintenant depuis pratiquement 12 ans. J'ai fait des études de création textile, en commençant d'abord par un DMA, un diplôme des métiers d'art textile à Paris, ensuite une école de design ici à Paris aussi. Et ensuite, j'ai voulu avoir un vrai panorama de ce qui pouvait se faire dans le domaine du textile. Et donc, j'ai eu différentes expériences professionnelles. Au départ, à mon compte, en travaillant pour la haute couture. Ensuite, j'ai travaillé pour l'industrie textile en France. Et puis après, j'ai eu envie de créer ma propre entreprise pour valoriser les savoir-faire traditionnels. Et j'ai fait ça. Je suis partie au Sénégal parce que j'ai découvert un savoir-faire que j'ai trouvé assez exceptionnel, qui m'a fascinée. Et j'ai monté mon studio de tissage à Dakar. Et voilà, et maintenant ça fait 12 ans de ça que je suis installée. Donc j'ai d'abord développé une ligne de décoration d'intérieur avec des tisserands traditionnels. Donc c'était une vraie collaboration. Enfin, c'est toujours une vraie collaboration entre un langage traditionnel de tissage qui est proche du tissage Manjac, avec ma touche à moi, on va dire peut-être plus contemporaine, avec un langage différent, avec une approche des matières un peu différente de ce qui se fait traditionnellement. Et puis petit à petit, j'ai eu envie d'étendre ce langage pour sensibiliser peut-être les gens à ce que pouvait représenter le textile en termes de communication. Et donc j'ai commencé à faire des installations, par le biais de résidences notamment, où j'ai eu la possibilité de travailler sur des installations. Et puis depuis, j'essaye de développer davantage ce langage artistique, de me détacher un petit peu du produit fini de décoration d'intérieur pour me pencher plus vers un univers artistique qui va me permettre de faire passer des idées plus larges. Voilà.
T'es allé au Sénégal parce que t'as un lien, toi, personnel particulier déjà avec cette terre-là, ou c'est vraiment du pur hasard tout ça?
Je suis pas sûre, je pense pas que ce soit un hasard, mais c'est vrai que ça faisait longtemps. Moi, j'ai pas de lien personnel avec le Sénégal, puisque moi, mes origines, elles sont plutôt tout à fait de l'autre côté de l'océan, c'est-à-dire plutôt dans les Caraïbes, puisque je suis métissée de France et des Antilles. Et donc, je pense que j'ai toujours eu cette envie de découvrir le continent, d'où certainement mes ancêtres viennent, n'est-ce pas? Et donc, c'est un peu naturellement que, déjà, quand j'ai terminé mes études, j'avais déjà contacté des entreprises en Afrique et au Sénégal pour éventuellement envisager des expériences professionnelles sur le continent. Ça ne s'était pas fait à ce moment-là. Ça s'est présenté en 2008. Où j'ai eu la possibilité de travailler chez Aïssa Dione qui cherchait une assistante de collection. Et à ce moment-là, ça m'a ouvert un peu la vue sur justement ce savoir-faire, collaborer avec des tisserands. Et c'est à ce moment-là que le déclic s'est opéré. Donc je suis restée très peu de temps dans son atelier. J'ai dû faire 3 mois dans son atelier puisque j'avais une manière un peu différente d'aborder ma vision du tissage traditionnel était différente, donc j'ai quitté cet atelier. Et puis après, je me suis posé la question, comment moi je pouvais éventuellement développer des choses là-bas. Donc je suis partie en France, revenue après au Sénégal pour présenter un travail textile que j'avais fait avec un designer sénégalais, justement. On avait fait un travail à quatre mains, designer Ousmane Baye, qui m'avait permis de faire une collaboration qui permettait de mettre en avant nos deux savoir-faire. Et de là, j'ai présenté mon book et les gens ont été très très enthousiastes. Ils m'ont dit, il faut absolument que tu viennes faire quelque chose au Sénégal parce qu'il y a un vrai savoir-faire, ce que je savais. Et effectivement, je me suis dit, ok, pourquoi pas, puisque moi j'étais dans cette optique où j'avais envie de toute façon de me mettre à mon compte et de développer mon propre langage textile. Donc voilà, je me suis lancée comme ça au Sénégal. Donc ça a été un vrai coup de cœur pour le savoir-faire là-bas. Un échange vraiment avec les tisserands traditionnels. Donc ça s'est fait un peu progressivement, par étapes, où il a fallu que je vienne à la rencontre de ces artisans, puisque moi j'avais un langage textile qui n'était pas forcément proche comme ça, a priori, du tissage traditionnel Manja, puisque c'est la tradition Manja qui se fait au Sénégal, qui se tisse au Sénégal. Moi, j'étais plus habituée à des matières soyeuses, et là, je devais plus me confronter à des matières coton, enfin plus du coton, plus des motifs plus géométriques, etc. Donc il y a eu un vrai échange qui a été fait avec les artisans pour comprendre leur manière de travailler, pour comprendre ce qu'était aussi cette tradition, puisque ce qui m'intéressait au-delà même du savoir-faire, c'était le comment on peut dire l'essence même du tissage. Puisqu'il a une vocation de protection au départ. Donc ça m'avait aussi beaucoup séduit. Et comment, à travers ce langage textile, on pouvait initier différentes choses. Donc c'est de là que l'atelier s'est monté. Et donc ça a été une... D'abord, j'ai commencé d'abord à travailler avec un tisserand, puis deux, puis trois. Et puis voilà, les choses se sont mises en place progressivement comme ça.
Et toi, avant même de rencontrer le tissage Manjac, tu avais déjà la pratique du métier à tisser?
Alors oui, parce que moi j'ai une formation donc en métier d'art textile, donc tissage. Donc ça veut dire que j'ai fait une formation à l'ESSAT Juppéré à Paris, où on a une formation en tissage.
D'accord, ouais.
Donc effectivement, moi-même je tisse, effectivement, et c'est pour ça que c'était intéressant aussi de travailler avec les tisserands. C'est-à-dire qu'il y avait un vrai échange entre moi, le langage textile que j'avais pu appréhender dans mes différentes formations et puis dans mes différentes expériences professionnelles. Donc effectivement, je tisse, et puis c'était vraiment voilà, arriver ensemble à construire quelque chose de nouveau avec nos identités réciproques.
Parce que j'ai cru comprendre que le tissage mandjak, c'est aussi du tissage à quatre mains, dans le sens qu'il y a un assistant, c'est ça?
C'est ça, c'est ça. C'est ça qui m'a fascinée, c'est
Oui.
que c'est vrai que c'est un savoir-faire qu'on retrouve très très peu dans le monde et qui est assez fascinant parce que justement il y a ces deux personnes qui collaborent, enfin qui sont complices pour créer un tissage. Donc il y a quatre mains qui tissent, quatre pieds qui sont là et
Oui.
les yeux qui c'est dans des échanges entre le tisserand et son assistant. Donc effectivement le tissage Manjac, la base c'est qu'il y a un tisserand qui va réaliser on va dire la base du tissu, enfin, qui va manipuler la navette, manipuler deux pédales, qui va être le fond du tissu, et puis grâce à l'assistant qui travaille en face de lui, qui va manipuler un certain nombre de bâtons devant lui, de bâtons en bois, va lui permettre de faire ressortir et de créer un motif. Donc voilà, c'est toute cette gymnastique, on va dire, d'échange entre le tisserand et son assistant qui m'ont aussi fascinée, de voir comment, c'est un peu, on peut parler d'un peu, ça fait un peu écho à la mécanique jacquard, où il y a des crochets qui sont manipulés dans le fond du métier à tisser et qui permettent de faire apparaître un motif devant, sachant que le motif, en plus, qui est tissé à l'avant du métier à tisser, est tissé sur l'envers. Donc voilà, c'est tous ces éléments qui m'ont fasciné et qui m'ont donné envie de voir comment, moi, avec le parcours que j'avais eu, je pouvais peut-être apporter quelque chose, en tout cas échanger des choses avec ces tisserands. Parce que ce que j'ai pu voir par la suite en faisant des formations aussi, puisqu'après j'ai donné des formations en tissage dans différents pays de la sous-région. Et ce qu'on rencontre souvent comme problématique, c'est comment arriver à, tout en respectant cette tradition, à faire en sorte qu'elle soit aussi le reflet de ce que les tisserands sont aujourd'hui. C'est-à-dire que ce soit à la fois le reflet de leurs ancêtres, mais à la fois leur propre reflet. Et donc, dans moi, ma manière d'appréhender le tissage avec les tisserands Manjac, c'était aussi leur montrer qu'avec le savoir-faire qui leur avait été transmis par leurs ancêtres, puisque le tissage Manjac s'est transmis de génération en génération, donc de père en fils, parce qu'effectivement, ce sont les hommes qui tissent. Au Sénégal, c'était aussi arriver à faire qu'ils puissent eux-mêmes être créateurs, même si c'est moi qui génère et qui monte les collections, qui crée les motifs, etc. C'était aussi leur montrer tout le potentiel de ce savoir-faire que leur avaient transmis leurs ancêtres.
Alors, moi
Ouais.
j'ai vu des créations, non, j'ai vu des sacs à main, des écharpes, donc du linge de maison, tout ça, c'est quelque chose que tu as mis qui est derrière toi ou c'est comment? Et pour te tourner vraiment vers l'art, l'artistique, les installations, ou c'est t'en es où par rapport à ça, par rapport à cette trajectoire-là?
Non, c'est pas du tout derrière moi, puisque j'ai donc un studio de tissage où il y a plusieurs tisserands qui travaillent à Dakar sur les parties décoration d'intérieur. Et puis maintenant, j'ai quand même un carnet de clients qui fait que c'est quelque chose qui perdure et qui est, j'espère, encore voué à perdurer. Mais c'est vrai que moi, en tant que tisserand, puisque je suis tisserand aussi, moi, en tant que tisserand, j'avais besoin, au-delà de présenter et de valoriser le savoir-faire, j'avais besoin, en tant que créatrice, j'avais besoin, et qu'artiste, j'avais besoin de dire d'autres choses, et puis de sortir de ce produit de consommation, puisqu'en fait, on reste dans un produit de consommation, et de pouvoir amener le tissage sur un autre type de langage.
C'est-à-dire qu'en gros, maintenant, tu as assuré une certaine. Ta base de revenus un peu assurée qui peut te faire te rendre plus confortable ton activité peut-être moins immédiatement lucrative aussi.
Oui, on peut dire ça, on peut dire ça. Et puis bon, c'est surtout qu'après, l'équipe, que maintenant, enfin, on est une petite équipe de 6 personnes, c'est une petite famille, et que je me vois mal
Oui, à tout
laisser
arrêter,
cette
bien
petite
sûr.
famille comme ça du jour au lendemain. C'est pas du tout dans mes perspectives, et c'est pas du tout dans ma logique de développement au Sénégal ou même ailleurs. Donc il y a cette base qui est là et qui est forte, puisque c'est vrai que ça m'a permis, les tisserands, si vous venez à Dakar, vous le diront, c'est vrai qu'avec, ensemble, on a créé un peu un nouveau langage. Ils disent qu'ils tissaient depuis des années, mais quand ils ont commencé à tisser avec moi, ils ont développé de nouvelles choses, des choses qu'ils n'avaient pas appréhendées jusque-là. Ça leur a ouvert aussi des horizons et des perspectives de développement différentes à travers ce savoir-faire qu'ils avaient. Et ensemble, en dehors de faire des produits voués à la décoration d'intérieur, ensemble aussi, moi, ça m'arrive de travailler avec eux sur des pièces qui ne vont pas forcément être vouées à la décoration. Je leur ai fait travailler des matières un peu spéciales, où des fois, ils me regardent arriver avec des grands yeux en me disant, mais qu'est-ce qu'elle va nous faire tisser? Pour justement leur montrer qu'effectivement, ça peut être un produit commercial qui va être source de revenus, mais ça peut aussi permettre de faire passer des idées différentes et de valoriser néanmoins leur savoir-faire.
Est-ce que tu as vu cette série à succès, Maîtresse d'un homme marié? Tu as vu ça?
Maîtresse, non, je n'ai pas regardé. J'ai entendu parler, mais je n'ai pas regardé
Ouais,
Maîtresse.
non,
Non,
mais
non.
ce qui est super intéressant dans cette série, c'est qu'elle. C'est marrant qu'elle met vraiment en avant plein de créateurs, en fait, sénégalais. Elle met en avant des femmes à la peau noire. Et enfin, ce qui paraît être bon anecdotique comme ça de loin, mais en vrai, c'est une vraie avancée quand même sur le continent, il me semble.
Oui, c'est vrai que ça fait, je dirais, ça fait, c'est quand même très récent, mais ça fait, je dirais, peut-être 1 an ou 2 ans peut-être, que maintenant il va y avoir, même au terme de publicité, hein, même en termes d'accroche. Et moi, je l'ai senti aussi, maintenant que ça fait 10 ans que je travaille, enfin plus de 10 ans que je travaille le pain tissé au Sénégal, j'ai aussi vu l'évolution de l'œil que portent les gens sur le pain tissé, parce que c'est vrai que ce que je dis justement, et c'est dans ça que j'ai déjà fait aussi quelques expositions qui ont permis aussi d'ouvrir un peu ce qu'on pouvait attendre du pain tissé, parce que c'est vrai qu'au Sénégal, quand on parle de pain tissé, les gens s'attendent à un tissu, donc qui est au départ plutôt voué à être un talisman, même si après ça a plus été transformé pour éventuellement être intégré plus au niveau de la mode et après en décoration. Mais c'est vrai que progressivement, on a vu qu'il y avait une fierté qui naissait. Et moi, c'est ce que j'ai toujours voulu faire dès le départ. Déjà que le tisserand lui-même soit fier du tissage qu'il fait, parce que le danger aussi avec ce qu'on appelle les savoir-faire ancestraux, c'est qu'il y a un décalage entre ce qui a été transmis et le langage courant, le langage contemporain du tisserand. C'est-à-dire qu'il va plus se reconnaître dans ce que ses ancêtres ont pu élaborer. Et donc, tout le travail qu'il y a à faire, enfin, tout le travail que moi, j'ai envie de faire avec les tisserands, c'est de leur dire, OK, vous avez un super savoir-faire qui a été amené par les ancêtres. Maintenant, comment vous pouvez vous le réapproprier pour que ça puisse vous correspondre? Effectivement, dès qu'il y a ce déclic qui est fait, on voit des tisserands qui sont fiers de leur création. Et du coup, forcément, ça va résonner avec le client qui va aussi se reconnaître dedans. Et forcément, oui. Ça va impliquer après, justement, des campagnes de publicité. Parce qu'il y a eu des campagnes, actuellement, il y a des campagnes de publicité à Dakar, je crois que c'est pour Orange, je ne sais plus, où on voit une femme porter une tenue d'une créatrice, d'une styliste sénégalaise, mais oui. qui intègre dans tous ses vêtements le pain tissé. Donc tout ça, c'est une chaîne qui fait que le regard qu'on porte sur ces traditions va être différent. Ouais. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, il y a peut-être eu le fait de se dire bah non, mais c'est nos ancêtres qui le faisaient, ça ne nous correspond plus, donc on passe à un autre produit, donc on va se tourner plutôt vers des produits importés parce que c'est ce qui nous correspond aujourd'hui. Mais dès l'instant où les tisserands, eux, vont s'approprier leur identité du moment, forcément, ça va avoir une répercussion sur l'œil que va porter le consommateur aussi sur le produit. Donc ça permet de faire évoluer les choses et de revaloriser justement ce savoir-faire.
Et donc, tu disais que tu voulais dire d'autres choses avec ce travail-là d'installation que notamment pour avoir à Clermont. Si tu avais vraiment un questionnement, une obsession que tu ne cesses d'explorer, ça serait lequel selon toi?
Moi, justement, donc dans la vision justement de ce lien entre les ancêtres et le contemporain, c'est d'arriver à trouver cet équilibre et notamment connaître, parce que c'est vrai que la connaissance de ce que faisaient nos ancêtres, elle est souvent plutôt superficielle, où il y a très peu de gens qui la connaissent. Et néanmoins, elle est très importante parce que c'est ce qui fait ce qu'on est aujourd'hui. Et donc, moi, dans le parcours, dans mon cheminement, c'est ça, c'est vraiment toujours prendre appui sur ses racines, les connaître pour pouvoir les transcender, pour pouvoir les faire évoluer. Donc à travers tous les langages que je développe, que ce soit le langage artistique, c'est toujours ça, c'est toujours avoir conscience de la base, connaître cette base pour justement pouvoir faire évoluer les choses, pouvoir faire passer des idées. Et donc dans le langage que je vais développer de manière artistique, je vais faire résonner certains rituels ou certains aspects spirituels que l'on oublie dans l'histoire du tissage, que ce soit au Sénégal ou sur le continent, et notamment dans l'installation que je vais présenter au musée, je fais référence à la charte du Mandé qui est liée au Mali et au pays d'Ogon et tout le langage très important qu'il peut y avoir et qui est un peu une source, il y a une référence en termes de tissage sur le continent africain et que très peu de personnes connaissent, mais qui néanmoins a un impact qui résonne justement avec l'universel, puisque je parle de différentes déclarations des droits de l'homme publiées par la charte, puisque c'est celle qui serait la plus ancienne connue. Et puis comment les choses évoluent et comment l'identité du continent, puisque là je vais élargir plus au continent et pas forcément uniquement au Sénégal, comment il a un rôle et un impact important sur l'universalité.
Alors moi j'ai sous les yeux le document, enfin, qui présente l'installation. Et c'est vrai que, donc, on voit cette bande-là de pagne avec, du coup, tu as gardé la navette qui est là.
Ouais.
Et, mais c'est vrai que ce qui tranche vraiment dans l'installation, ce sont ces gants. Je crois qu'il y en a 100. C'est ça?
Ouais.
C'est des gants. Alors, c'est ça, ouais. Moi, c'est des gants qui me font penser à, c'est les gants qui sont utilisés au Mali, tu sais, pour la teinture chimique, là. C'est des gants abrasifs.
Ouais, c'est vrai, ouais.
Et
ouais,
donc, ouais. Donc là, ce sont des gants noirs. Est-ce que tu peux me dire pourquoi ces gants en plus et comment ça s'intègre dans ce récit de la charte du Mandé, donc cette charte de l'Empire mandingue? Et là, c'est Sundiata Keïta, 13e siècle.
Ouais, Mais en fait, là, c'est vraiment, j'ai vraiment voulu faire écho. Bon, donc, il y a l'installation se compose de différents éléments. C'est vrai qu'il y a les gants. Et c'est vrai que bon, en ce moment, on a des préoccupations qui nous touchent enfin voilà, qui touche le monde, enfin au niveau mondial, il y a des percussions, mais avant cette crise, on va dire, du corona, on parle et on voit aussi beaucoup ce qui peut se passer entre le nord et le sud, les mouvements qu'il peut y avoir de population et notamment, enfin, dans ce dont on parle, ce qu'on a appelé immigration. Et c'est vrai que j'ai eu envie à travers ce travail, de questionner un petit peu et de montrer. Alors donc, je vais repartir des éléments qui constituent l'installation. Donc, il y a cette bande tissée, donc, que j'ai tissée à partir de. J'ai d'abord écrit sur des bandes de papier les trois déclarations, donc ce que j'appelle moi les trois déclarations universelles des droits de l'homme, donc la première, la plus ancienne, celle demandée, et puis les deux qui ont suivi, la française, puis la déclaration universelle des droits de l'homme. Et je les ai d'abord donc écrits sur des bandes de papier que j'ai ensuite tissées, intégrées dans mon tissage. Donc déjà cet acte de tissage, ça a été un peu un acte, enfin, pour moi spirituel. C'est moi-même qui ai tissé cette bande sur les bandes de largeur traditionnelle. Donc les trois déclarations sont tissées là, toute cette bande, c'est les textes qui sont écrits. Voilà. Et que j'ai intégré, que j'ai tissé. Et c'est donc c'est toute cette installation est composée. La base du tissage, c'est du coton, mais après le reste, c'est du coton, ainsi que les fils qui sont reliés au gant.
Au
Tout
grand.
ça, c'est du papier. Ouais. C'est les fils de papier. Voilà. Et donc après, les gants, c'est un peu l'interrogation, justement, toutes ces mains tendues sur ce qui aurait dû et ce qui devrait être l'idéal, entre guillemets, d'universalité avec ces trois déclarations tissées, et comment, en traversant les âges, comme ce questionnement, en traversant les âges, en traversant les continents, comment arriver à trouver cet équilibre, et comment ensemble tisser peut-être, bah, la future déclaration qui va nous permettre d'avoir un monde peut-être un peu plus équilibré.
Parce que, en fait, j'ai un déclic là, tu vois, plus je les ai sous les yeux, ça pourrait faire penser à des bras aussi, qui sont de gens qui sont en train de se noyer, non?
Ça peut être ça aussi, tout à fait. Ben, en fait, c'est le principe des gants, et puis bon, les mains, voilà, les mains, pour moi, c'est aussi un symbole fort, la main tendue, la main, c'est ce qui peut nous relier en termes enfin, d'un point de vue tactile aussi, échanger. Pour le tissage, c'est quand même l'outil premier pour pouvoir tisser, c'est cette main, pour pouvoir construire des choses. Donc effectivement, j'ai pas envie d'enfermer les mains. Ça peut être effectivement les mains des teinturières, on peut le voir comme ça aussi, des gants des teinturières. C'est voilà, relier l'humain à ses fondamentaux.
Alors justement, bon, t'as donné quand même les réponses dans les grandes lignes, hein. Enfin, tout ce que tu racontes, c'est bien des histoires de love, mais sur cette question-là du titre de l'exposition, ça c'est une création spécialement pour le festival?
Non, c'est pas une création que j'ai fait spécialement pour le festival. C'est une création que j'avais réalisée dans le cadre d'un projet qui s'appelait Seed for Future Memories. Donc c'est quand j'ai eu vent, enfin, de love, etc. Je me suis dit que c'est, enfin, et au vu de tout le, toute l'explication de, du concept de love, etc., je me suis dit que c'était pour moi une représentation de comment arriver à construire, enfin, ce love, etc., puisqu'il y a ce côté justement universel quand on parle de, je parle des déclarations des droits de l'homme, mais aussi quand on parle de love, d'amour, c'est quelque chose qui nous touche tous de manière différente, et donc je trouvais que ça c'était un bel écho à ce concept de love, etc. Comment recréer ces liens qui nous permettent de dépasser les frontières et de répandre l'amour partout.
J'ai vu aussi que tu faisais des, alors tu as fait, ou je sais, des installations ou avec ce jeu de mots là de métissage.
Oui, bah ça c'est remonté à loin, parce que bon, moi je suis moi-même issue de métissage, donc c'est quelque chose qui fait partie de moi à part entière, donc c'est forcément présent dans ma manière vraiment d'appréhender le tissage, et il n'y a pas de hasard, enfin moi si le tissage, je sais pas si c'est moi qui ai choisi le tissage ou c'est le tissage qui m'a choisi, mais en tout cas c'est vrai que le langage déjà d'entremêler deux fils, c'est pour moi quelque chose de fort, et ça correspond vraiment à ma personnalité. Donc c'est quelque chose qui fait partie à part entière de ma manière d'aborder le tissage, et ensuite que je vais pouvoir justement développer à travers différentes installations. Dans les installations que j'ai pu faire à travers les résidences que j'ai parcourues, c'est vrai qu'il y a le métissage, on va dire, qui va avoir un côté plus ethnique, entre guillemets, hein, si on peut dire. Et puis après, il y a aussi, pour moi, les références du métissage, c'est aussi comment arriver à trouver un équilibre, comment arriver à partir de deux éléments ou plus, à créer quelque chose de nouveau, avec une identité singulière, particulière.
Bon, mais merci infiniment.
Écoute, prends soin de toi et de ta petite famille.
Pareil, bon semi-confinement en Allemagne, du coup.
Ouais, merci. À toi aussi, à Clermont.
Ouais. Allez, à bientôt.
À bientôt.
Salut, merci.
Au revoir.
Au revoir.